environnement, d'un niveau global d'intelligence, de fonctions cognitives, fonctions langagières, capacités motrices, tout un sphère qui ne fonctionne pas et qui a donné cette déficience intellectuelle.
Est-ce possible de détecter le début de ces déficiences intellectuelles?
Les déficiences intellectuelles, souvent, dans tous les cas, est détectée depuis un âge précoce, alors que les maladies mentales, ça viendra à fur et à mesure après certains âges. Donc les troubles mentaux, ce sont des situations, on va dire, dans des contextes bien spécifiques, de moments bien spécifiques, qui n'est pas durable. Par contre, la déficience intellectuelle, c'est un état plus durable, qui nécessite une réhabilitation, un appui afin d'acquérir des compétences, certaines compétences lacunaires dont on a parlé.
Quelle est donc la conduite à tenir face à une déficience intellectuelle? Est-ce que le malade pourra être réhabilité?
La déficience intellectuelle, c'est un état durable qui nécessite une réhabilitation, un appui, un accompagnement afin que la personne acquiera certaines compétences qui sont déjà les compétences lacunaires, mais il ne sera pas 100% guéri, comme on dit dans notre langage de tout le jour. Il va développer, il va apprendre, cette déficience va se réduire, mais ce ne sera pas total. Par contre, les maladies mentales, avec un bon appui, une bonne prise en charge, la majorité des troubles mentaux est curable et la personne redeviendra soi-disant normale. Il reprendra toutes ses fonctionnalités, toutes ses capacités langagières, sociales et autres. Ça n'empêche que dans pas mal des cas de déficience intellectuelle, on voit la comorbidité avec les troubles mentaux.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la personne qui a certaines déficiences intellectuelles peut développer d'autres troubles mentaux, surtout dépression, anxiété, mais aussi ça peut amener à des cas d'autisme, cas de psychose ou autres troubles mentaux.
Clément et Sonia, vous deux, vous aviez mentionné une prise en charge, ce qui signifie que la personne qui souffre des troubles mentaux n'est pas une cause perdue, qu'il y a bien un traitement.
Oui, les troubles mentaux sont traitables et les personnes en fait malades de troubles mentaux, comme on l'a bien dit, peuvent guérir. Il y a ceux qui peuvent guérir complètement parce que les troubles mentaux qui viennent juste temporairement et qui partent avec le traitement. Dans d'autres cas, il y a d'autres qui développent des maladies qui sont plus ou moins chroniques, donc c'est-à-dire qui peuvent prendre aussi toute leur vie, mais qui peuvent bénéficier d'une prise en charge qui leur offriront une stabilisation pour qu'ils puissent encore retrouver leur vie plus ou moins normale et fonctionner normalement.
Et quel genre de traitement le malade doit-il suivre?
Il y a plusieurs modèles dont les médicaments qui sont donnés régulièrement, que les personnes peuvent prendre et rétablir. Il y a aussi ce qu'on appelle la psychothérapie, donc ce sont des séances, disons, de parole d'entretien et de soutien avec un spécialiste qui peuvent accompagner la personne pour bien se rétablir, pour bien retrouver sa vie normale. En plus de ça aussi, on y ajoute des modifications ou bien des adaptations de mode de vie, soit au niveau communautaire, au niveau familial, au niveau de la discipline de la personne, pour qu'il puisse encore se réadapter dans ce nouvel état de maladie, mais qui va bien sûr s'améliorer et finir. Donc, dans le traitement...
Mais pourquoi certains traitements échouent-ils?
La majorité des cas, en fait, ça échoue parce qu'il y a le découragement au niveau communautaire, au niveau de famille, au niveau aussi individuel, au niveau de l'entourage. Et un bon traitement, pour moi, on l'a bien vu dans les cas que nous traitons ici, il y a des malades qui nous viennent et qui se stabilisent à travers le traitement, mais quand ils se retournent à la maison, ils passent un mois, deux mois, trois mois et on voit qu'ils ne reviennent parce qu'ils ont manqué un peu de support, d'appui, de soutien au niveau communautaire. Donc, la communauté, c'est aussi un traitement, en fait, dans cette acceptance de la personne, accepter la maladie et accompagner la personne dans sa famille à bien se rétablir et à retrouver sa vie normale.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOAAfrique.
Sonia, comment se passe la prise en charge des malades mentaux dans le Sahel avec vous?
Comme Jean-Clément l'a bien synthétisé, l'intervention, la prise en charge, c'est multidisciplinaire. Donc, tu as la partie pharmacologique, tout ce qui est médicaments.
Le traitement est-il payant?
Chez MSF, on a la gratuité de service dans tous les projets où nous intervenons et dans la composante santé mentale. Donc, tous les patients que nous avons qui sont dans notre programme de prise en charge santé mentale, s'ils nécessitent une intervention médicamenteuse, c'est gratuit. Ça se donne à eux gratuitement, à condition qu'on voit un engagement de la part de la famille, comme Clément l'a bien précisé. Souvent, les familles, quand les patients prennent les 2-3 premiers mois de traitement, ils voient le changement de comportement, que l'état de détresse s'est réduit, et la personne s'est améliorée, ils commencent à arrêter le traitement. Et ça, c'est parmi les choses non recommandées, vu la gravité que ça peut engendrer. Tout dépend, bien sûr, des disponibilités des molécules, quel type de médicaments on peut trouver aussi dans les pharmacies locales.
Vous dites que tout dépend aussi du type de molécule et de la disponibilité des médicaments. Cela signifie que vous avez parfois des challenges sur ce plan-là.
Parmi les challenges qu'on a, c'est avoir les médicaments, les psychotropes, comme on les appelle dans notre milieu, dans les pays, parce que c'est pas souvent le cas, ça coûte cher, et les pays ne décident pas pour acheter, par exemple, certains psychotropes. Donc, on doit voir qu'est-ce qu'on a dans notre pharmacie pour donner aux patients, leurs membres de famille, pour qu'ils puissent l'appuyer autant que possible.
Vous recourez aussi à la sensibilisation communautaire. Dans quel objectif?
Un, pour réduire la stigmatisation dont on a parlé, mais deux aussi, pour renforcer tout ce qui est résilience commune et communautaire, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'autre, pour comprendre que, comme Clément a dit à un moment, on vous avait demandé sur les fous, en fait. Les fous n'existent pas, parce que dans les troubles, la personne ne perd pas totalement les facultés de raisonnement. En fait, on essaie de sensibiliser la communauté, de le faire comprendre, parce qu'ils sont partisans de cette prise en charge psychosociale, parce que l'être humain n'est pas isolé lui-même dans un endroit. Il vit dans une communauté qui doit le comprendre, l'accepter, et si c'est possible, et c'est l'idéal aussi, l'appuyer pour passer ces moments difficiles.
Vous avez parlé d'un appui de la famille. Clément, comment les membres de la famille ou les amis proches peuvent aider le malade?
La famille, pour nous, c'est la première thérapeute. Donc, c'est le médecin principal, c'est la famille. Pour juste donner un exemple, avant-hier, nous avons visité l'un de nos patients qui était suivi dans nos services et qui était stabilisé. Il devrait revenir au rendez-vous de suivi, mais ça faisait 2 mois qu'on ne la voyait pas. Donc, on s'est rendu chez elle et on a trouvé sa famille qui était présente. Et la famille nous a expliqué que la patiente s'est retrouvée chez les traduits praticiens parce qu'elle trouvait que le médicament, ça ne marchait pas et ça ne donnait pas, en fait, les résultats.
Du coup, il faut vraiment éduquer aussi la famille.
La famille, quand on fait nos séances de traitement, on les éduque aussi dans la manière dont elles doivent gérer, suivre et orienter les patients à la maison. Si cette éducation ne passait pas ou bien qu'elle néglige de mettre en place ces stratégies, c'est-à-dire qu'à la maison, ça ne peut pas passer. Donc le patient ne vient pas parce que la famille n'aura pas encouragé à revenir au rendez-vous. Ou bien la famille ne l'encourageait pas à prendre des médicaments. Si c'est le patient seul qui gère ses médicaments, on ne sait pas si le patient a pris ou non. Donc c'est la famille qui est là en fait pour voir. Mais après, pour l'exemple que j'ai donné, on a trouvé que le patient elle-même avait gardé ses médicaments. Donc c'est elle qui gérait sa prise de traitement et elle ne prenait pas son traitement et il a rechuté et elle n'était pas stabilisée. La famille en fait a une erreur très grande dans les soins du patient. Parce que nous, on ne peut pas réussir sans que la famille s'implique activement et d'une manière dynamique. Bien sûr, nous voyons des familles qui sont actives et qui font tout pour que leurs patients, leurs membres de famille, leurs enfants puissent vraiment retrouver la vie et la santé. Et ça, ça existe et il y a des réussites qui sont là. Mais malheureusement, bien sûr, il y a d'autres qui n'arrivaient pas à accepter et à suivre donc toutes ces stratégies.
Les troubles mentaux, y a-t-il des moyens de les prévenir?
La prévention, en fait, s'oriente d'abord à savoir qu'est-ce qui cause la maladie mentale. On s'oriente à ces facteurs pour qu'ils ne puissent pas impacter la personne négativement, soit au niveau social, au niveau psychologique et au niveau environnemental. On travaille à adopter un environnement sain dans la communauté qui favorise l'autonomie, la liberté, la sécurité dans la communauté. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que cet environnement donc devenu instable, donc ça peut être un facteur déclencheur aussi pour quelqu'un qui est déjà susceptible de développer des troubles mentaux.
Et au niveau social et familial?
Au niveau social et familial, donc si la famille n'est pas en face des filles, disons, économiques, on accompagne aussi des fois les personnes dans les facteurs de sensibilisation à bien voir qu'est-ce qui m'a aidé dans la vie que j'ai vécue, qui était plus positif et qui m'a accompagné, que je peux encore utiliser donc les stratégies de résilience. Par exemple, ici au Libéria, où les personnes ont vécu l'épidémie d'Ebola et qui ont survécu, qui ont surpassé cette expérience, ils ont développé une certaine résilience de comment ils peuvent bien réellement manager quand ils vont se retrouver dans d'autres circonstances pareilles de stress. Donc, on encourage les personnes à utiliser les mêmes moyens au niveau communautaire et ces stratégies de résilience, on les encourage et ça aide les communautés à s'en sortir aussi dans la prévention des troubles mentaux. Aussi, nous travaillons avec les communautés telles que les groupes de représentants de villages, des responsables des groupes de jeunes, des chefs religieux traditionnels, donc tout ce monde en fait qui ont un rôle important dans la communauté, pour leur donner des messages qu'ils communiquent à la communauté, pas nécessairement aux gens, aux personnes qui sont malades, mais aux personnes qui sont saines, et les encourager à éviter les comportements qui peuvent les amener dans des conditions en fait, qui peuvent encourager aussi ou les amener dans des risques tels que l'usage de la drogue, qui est aussi un facteur social, des fois, qui peuvent déclencher des troubles mentaux.
Sonia, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que Clément a dit concernant la prévention des troubles mentaux?
Je pense qu'elle a parcouru tous les points de la partie prévention, sensibilisation, éducation. La petite partie, c'est de renforcer aussi la résilience dont j'ai parlé auparavant. La résilience individuelle et la résilience communautaire. Ça veut dire la capacité de la personne de s'adapter d'une manière positive avec le changement de la situation. Ça peut trop l'aider pour faire face à ses réactions psychologiques. Et ça, c'est parmi les choses qu'on essaye de renforcer dans tous les programmes santé mentale, pas seulement chez Médecins Sans Frontières, mais parmi aussi les recommandations de l'OMS pour les différents ministères de la santé, les structures sanitaires, les personnels soignants et aussi les organisations opérant dans ce domaine.
Clément, bénéficiez-vous d'une certaine aide de la part des pouvoirs publics libériens?
Oui, pour dire d'abord, nos activités ici au Libéria, nous faisons un appui dans les centres de santé publics au niveau donc primaire, au niveau communautaire, là où on intègre la prise en charge des maladies mentales à travers le programme de l'OMS et Medigap. Donc c'est un appui avec le ministère où nous avons développé un groupe d'activités à travers les cliniciens, les infirmiers et les agents sociaux.
Quelle est l'importance de l'appui qui vous vient du ministère libérien de la Santé?
L'appui qui nous vient au niveau du ministère est très important parce qu'il nous donne cet espace pour qu'on puisse déjà amener nos activités. Et nous travaillons en même temps avec le personnel du ministère que nous encourageons et nous formons, mais qui reste toujours dans les cliniques et dans les centres de santé et qui appartiennent au ministère.
Les communautés, comment appuient-elles vos activités?
Quand nous y rendons dans les communautés, les membres de la communauté, les chefs des villages, les chefs religieux, tous, ils sont ouverts à nous accueillir, à nous donner l'espace pour qu'on puisse mener bien nos activités.
Sur le plan financier, comment vous en sortez-vous?
Au niveau financier, bien sûr, donc MSF, nous avons notre politique de travail avec les donateurs internationaux donc, qui nous aident et qui nous appuient à pouvoir mener nos activités comme il faut. Et là, je laisserai Sonia pour parler de ça. Voilà, donc je pense que c'est ça à mon niveau.
Sonia, vous avez vu la perche que vous a lancée Clément en disant que vous êtes mieux placée pour parler de l'appui financier?
Donc, je reprends où Jean-Clément s'est arrêté. Médecins Sans Frontières est une organisation indépendante et impartiale. Donc, on ne dépend d'aucun gouvernement et nos fonds, on n'a pas des fonds gouvernementaux. Donc, on ne reçoit pas de l'argent de n'importe quel gouvernement. On reçoit de l'argent que de la part de nos donateurs.
À combien pouvez-vous estimer le nombre de vos partenaires?
on estime maintenant, selon les dernières données, on a quelque chose de 6 millions de donateurs sur le plan mondial qui font des donations annuelles, mensuelles, ça dépend, trimestrielles aussi, à MACEF parce qu'ils croient à nos causes et ils ont confiance à nos choix et à nos interventions. Et ces donations, cet argent-là, ces budgets-là, c'est à nous de décider comment on le partage dans les opérations selon les besoins. Par exemple, dans la région de Sahel, on a vu que parmi les plus grands problèmes qu'on a, avec tout ce qui est contexte instable et insécurité, c'est la santé mentale, c'est parmi nos grands investissements dans cette région. Pour cela, on bénéficie de cet appui. Pour acheter les médicaments, pour recruter du staff de ressources humaines locales, qu'on les forme, pour qu'ils puissent prendre des prises en charge de qualité appropriées aux besoins de la communauté.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
De quel genre d'aide avez-vous encore besoin pour mener à bien vos activités?
Les autres aides qu'on a besoin, c'est le besoin d'acceptance et de l'appui communautaire. Comme Jean-Clément l'a bien expliqué, c'est qu'on ne peut pas travailler sans la communauté. On est ensemble avec la communauté, on est en paire avec la communauté parce qu'on a bien parlé de l'aspect social, communautaire, dans la prise en charge et l'intervention psychosociale auprès des personnes avec des troubles mentaux. Donc on a besoin de tout l'aspect communautaire et la communauté, c'est les leaders communautaires, les leaders religieux, les matrons, les praticiens, les enseignants des écoles, les autorités sanitaires. On opère avec eux dans les structures où ils travaillent et pour cela, on les forme, on collabore ensemble pour maximiser la qualité de prise en charge de soins de la santé mentale. Ajoutant à ça aussi la société civile, donc les ONG.
Avec quelles ONG collaborez-vous ? Les ONG locales ou celles internationales?
Soit les ONG internationales qui travaillent dans certaines régions où nous travaillons, donc voir s'ils ont des besoins. Donc c'est nous qui fournirons, par exemple, la santé mentale, c'est souvent le cas. Il y en a des endroits, des projets où Médecins Sans Frontières, c'est la seule organisation qui a le service santé mentale parce que les gens ne veulent pas prendre trop de risques, parce que c'est très mal connu dans la communauté, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour avoir cette composante. Et aussi la société civile locale, on trouve des associations, par exemple, des parents d'élèves de temps en temps, les associations des femmes ou les associations des jeunes, qu'on coopère avec eux pour faire faciliter le partage, la communication, la fluidité des informations qui passent dans la communauté afin d'être acceptées, mais aussi de référer les personnes ayant besoin de nos appuis à nos services.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Sonia, avez-vous des conseils à donner ou des recommandations à formuler?
Le message clé qu'on donne toujours, c'est pas seulement MSF, mais toutes les institutions, c'est que les soins de la santé mentale est un droit. C'est un besoin pour toute la population. Hommes, femmes, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Ces besoins augmente, ça croît dans les contextes d'insécurité, de conflit, d'instabilité, dans les contextes des crises, comme la crise Covid. Donc, essayons autant que possible de partager les messages pour faciliter l'accessibilité et l'accès de ces services à la population. Nous devons toujours faire attention aux personnes plus vulnérables, les personnes avec des déficiences intellectuelles et ou moteurs, pour les enfants et pour les femmes aussi. Et tenons dans la tête que tout le monde, on peut passer par des moments difficiles, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre chaque jour, soit dans la vie sociale, soit sur le plan mondial. Le Covid est le bon exemple qui nous a montré qu'à tout moment, nous pouvons tous développer des réactions psychologiques, que nous avons tous besoin d'un moment d'être épaulés, soutenus par des professionnels de la santé mentale. Et ça ne veut pas dire qu'on est fou, comme on a dit depuis les débuts. Juste, ça veut dire que nous avons besoin de cet espace où nous pouvons partager notre vécu négatif, nos sentiments qui nous frustrent, qui nous fatiguent, dans un espace de sécurité pour se ressourcer, pour pouvoir continuer notre chemin et réintégrer la communauté et la société. Et pour finir, la prise en charge des troubles mentaux, c'est une approche multiniveau. Donc ça commence dès la communauté, dès la famille, en arrivant jusqu'à les structures sanitaires spécifiques, psychiatriques ou médicales généralisées. Donc aucun ne peut fonctionner séparément de l'autre. C'est tout le monde en fonctionne ensemble. L'appui de la famille, de la communauté, la prise en charge par des professionnels de santé mentale, des conseillers ou des psychologues, les médecins, pour les infirmiers, les psychologues, les conseillers qui font la partie psychosociale et psychologique, mais aussi les leaders communautaires, les leaders religieux qui renforcent l'aspect social.
Clément, pour terminer, vos conseils ou vos recommandations ?
La santé mentale et la prise en charge des troubles mentaux, en fait, ça nécessite les trois choses pour moi. Et il y a l'engagement, le dévouement et le soutien assuré. Au niveau de l'engagement, ici au Libéria, nous travaillons bien avec le gouvernement, disons, le ministère de la Santé. Donc, il y a déjà l'engagement qui est là, mais il faut qu'il y ait l'augmentation de capacité, donc qui est toujours nécessaire dans le volet de formation du personnel de santé, donc dans tous les systèmes sanitaires. Et pour la prise en charge de ces troubles mentaux, il faut aussi travailler beaucoup sur la disponibilité des médicaments de prise en charge, donc comme on l'a bien déjà dit, et aussi à l'accompagnement des communautés dans la lutte contre la stigmatisation qui est un grand danger et les croyances erronées sur la maladie mentale. Tout ça, c'est la responsabilité de tout le monde qui doit faire un engagement, mais en plus particulier, ces structures qui ont le pouvoir de faire évoluer les politiques ou les réglementations pour la santé mentale meilleure pour tout le monde. En dernier lieu, pour assurer la capacité à long terme, mais parce qu'il y a les besoins qui sont là, au niveau du ministère de la Santé, et c'est de garantir aussi l'accès au programme dans tous les structures, donc pour que les patients puissent avoir ou se faire soigner. Et ça demandera en fait d'augmenter au niveau des besoins, d'avoir un soutien financier. Donc nous faisons appel comme normal à tout acteur en fait public et privé. C'est tout le monde qui est impliqué. Il y a l'OMS qui est là, il y a l'UNICEF, il y a des organisations des Nations Unies. Donc pour que tout le monde fasse la santé mentale une priorité et d'orienter les efforts, les actions pour qu'on puisse disponibiliser les moyens pour avoir les médicaments et nos budgets spécifiques destinés à la santé mentale dans les programmes sanitaires. Parce que, comme Sonia l'a bien dit, c'est ensemble que nous tous, nous pourrons réellement apporter les réponses adéquates aux besoins de santé mentale aux Libériens et aussi dans le reste du monde.
Merci Sonia, merci Clément d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Vous venez de suivre l'entretien que nous ont accordé Jean-Clément Ishimwe et Sonia Mounir. Jean-Clément Ishimwe est le coordinateur du projet MSF en santé mentale et épilepsie au Libéria. Sonia Mounir, quant à elle, est la référente technique régionale en santé mentale en Afrique de l'Ouest et du Centre de Médecins sans frontières. Nous sommes également arrivés à la fin de notre magazine hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Il était centré autour des conséquences de la prise en charge et des moyens de prévention des troubles mentaux. Ce programme santé vous a été présenté par Nanit Talani et a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I